Bonjour à toutes et à tous, et j'ai le grand plaisir de vous retrouver, de reprendre le micro pour un tout nouveau format de podcast. En effet, comme le nom de ce podcast l'indique, je vais vous commenter donc aujourd'hui la première course de la saison 2018-2019 de Formule E qui s'est terminée dans l'été. Et plus tard, je vous commenterai les autres courses de la saison. Donc voilà, normalement, d'ici fin septembre, tout sera commenté. La saison intégrale 2018-2019 sera commentée. Alors pourquoi la commenter maintenant? Pourquoi la commenter tout court? Tout simplement parce que le commentaire est une autre de mes passions. En plus de parler Formule 1, d'analyser les faits d'actualité, d'aller un peu plus loin dans le fond des choses. Eh bien, le commentaire, c'est vraiment quelque chose qui me manquait, puisqu'auparavant, je commentais non pas de la course automobile, mais on va dire de la course automobile virtuelle, puisque c'était des jeux vidéo, notamment certains jeux vidéo de course, hein, que ce soit plutôt jeux arcade, hein, pas jeux de simulation, hein, en plus, et aussi jeux de combat par un moment. Enfin bref, j'adorais ça. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas mêler les deux. La Formule E, j'en avais pas parlé du tout concernant la saison 5. Et pour cause, je n'ai vu aucune course de la saison 5. Donc, ce sera tout nouveau pour moi. Et je le souhaitais. Je le souhaitais. J'avais cette petite idée qui me trottait derrière l'esprit pour pouvoir commenter dans les conditions du direct et vraiment m'exercer dans cette pratique et essayez également de vous faire profiter de commentaires alternatifs en français, gratuits. Alors pour cela, évidemment, on a la chance que la chaîne officielle de la Formule E rediffuse les Grands Prix gratuitement. Donc il y a les vidéos qui sont disponibles sur la plateforme YouTube. Vous allez sur la chaîne ABB Formula E. Donc ABB Formula E, si vous êtes un peu plus anglophone. Voilà. Et par exemple, pour cette course, le lien est dans la description du podcast. Sinon, si vous n'arrivez pas à cliquer dessus, je pense que normalement, si, j'aurais fait ce qu'il faut. Mais dans le cas contraire, vous allez donc sur la chaîne et vous cherchez une vidéo qui dure 2 heures et 59 secondes, et c'est celle-ci. Alors, pour pouvoir vous caler en termes de pouvoir synchroniser mes commentaires et la vidéo, là c'est la problématique hein, de l'exercice. Eh bien, je vais vous aider un peu. Je vous inviterai un peu plus tard à vous rendre à une certaine minute hein, sur la vidéo, pas sur le podcast, et on se calera à ce moment-là. Ça sera lors de la présentation de la grille de départ, où là je vous présenterai également bah, cette grille, et du coup vous pourrez vous caler là-dessus également avec les lumières au départ. J'essaierai de faire un décompte pour que vous puissiez vous caler. Pas de panique si vous trouvez qu'il y a un décalage au fur et à mesure de la course qui se creuse entre mes commentaires et l'image. Soit vous le recalez manuellement avec la vidéo, ce qui peut être un peu embêtant, hein, j'en conviens. Soit vous faites avec parce que je pense pas que ce décalage dépassera 2-3 secondes. Or, des fois, à la télé, même à la télé, hein, même à la télévision, je vois sur F1 TV par exemple, les décalages entre les commentaires et l'image sont parfois de 3 secondes. L'image arrive 2 secondes, enfin 2 secondes plutôt, 2 secondes avant le commentaire. Donc, pas de panique. Normalement, ça devrait pas contrevenir à votre plaisir de regarder cette course de Formule E, ni à écouter mes commentaires, je l'espère. Voilà, donc pour ceux qui connaissaient mes podcasts Analyse F1, ça sera dans le même ton, hein, vous en faites pas. J'irai pas par quatre chemins, ce sera dans la franchise. Il y aura pas trop de, comment dire, de politiquement correct, c'est pas trop le genre. Donc c'est comme ça, hein, j'espère vous faire une sorte de respiration des fois dans ce marasme ambiant des commentaires sportifs. Voilà. Et pourquoi cette saison 5? Parce que cette saison 5 de Formule E a quelque chose de particulier. Là, j'en viens aux nouveautés avant d'un peu commenter la course. Au passé, hein, si ça vous intéresse pas, que vous êtes déjà au courant des nouveautés de la Formule E, je vous invite à passer un peu cette partie de podcast et à aller jusqu'au commentaire de la course. Mais voilà, pour les autres, pourquoi cette saison 5? Tout simplement parce qu'avant, lors des 4 premières saisons, les pilotes devaient changer de véhicule, changer de voiture. Voilà, c'était l'arrêt au stand de la Formule E, assez particulier, assez singulier. C'était d'aller changer de véhicule à la mi-course environ. Et parce que tout simplement, les batteries tenaient pas, pouvaient pas tenir plus. Voilà, pour cette saison 5, tout a été revu en termes de design. C'est un design beaucoup plus futuriste sur les Formules E. Elles sont plus rapides et elles tiennent plus longtemps. C'est-à-dire que là, il va y avoir une seule monoplace pour toute la course. Une course qui va durer, non, ce qui ne sera compté non pas en nombre de tours, mais en nombre de minutes. 45 minutes plus un tour. Donc ça fait une course un peu moins longue que les saisons dernières. À peu près, je pense, 10-15 minutes moins longue, hein, à la vue de louche, quoi. Mais en revanche, les monoplaces dureront toute la course et seront plus rapides parce que l'année dernière, c'était 150 kW par course, maximum en déploiement. Et là, c'est 200 kW qui seront autorisés. Donc, ça ira plus vite. Donc, c'est plus de plaisir pour les pilotes, hein, un peu d'inconnu également pour nous aussi. On va avoir des monoplaces électriques qui vont plus vite, qui durent plus longtemps. Donc, ça a un vrai intérêt pour le coup technologique et sportif. Et sportif également parce que c'est l'inconnu à tous les points de vue. C'est vraiment une nouvelle monoplace. Alors, les pilotes qui ont l'habitude de s'adapter, qui ont dû énormément s'adapter quand ils sont arrivés en Formule E, je pense, vont être un peu avantagés. Donc, une expérience en Formule E est toujours préférable, je pense, et va toujours servir. Surtout avec ces monoplaces électriques, hein, c'est particulier à l'accélération, également pour la transmission. On sait que il n'y a pas de délai, c'est assez également particulier pour le freinage également en brake by wire. Là aussi, il va falloir s'adapter à tout ça. Le fan boost est toujours là. Alors le fan boost, en gros, c'est pour inclure les spectateurs. Donc, vous inclure vous, nous inclure nous. Avant la course, quelques jours avant, vous pouvez voter pour votre pilote favori, le pilote dont vous êtes fan ou le pilote que vous voulez soutenir, tout simplement, en plus. Et les cinq qui auront le plus de votes, avant je crois que c'était les trois, maintenant c'est les cinq, en tout cas cette saison, eh bien en deuxième partie de course, ils pourront activer un boost, voilà, un boost soit défensif, soit offensif, pour essayer de. Généralement c'est plutôt offensif, pour essayer de dépasser. Un autre pilote, voilà, grâce à vous, vous pouvez faire ça. Alors il y a un débat. Est-ce que c'est quelque chose de positif parce que ça permet d'inclure les fans, c'est une sorte d'innovation, ou est-ce que c'est un moyen de fausser la course? Voilà, j'ouvre le débat, hein, n'hésitez pas à en discuter. De mon côté, moi le fan boost me dérange pas, j'ai pas trouvé qu'il ait faussé la course ces dernières saisons. Au contraire, il l'a plutôt animé. Dans le bon sens, et ça rendait pas les dépassements non plus trop faciles. Enfin, là encore, ça dépendait des circuits. Et c'est limité, hein. Je crois que c'est activable. Je crois qu'il y a un certain temps de fan boost qui est possible, et puis ils doivent le déployer. Donc c'est pas non plus un truc complètement injuste pour les autres pilotes qui ne l'ont pas. Et espérons que ça reste comme ça. Et il y a une nouveauté cette année, une grosse nouveauté, la réalité augmentée, pardon, il me semble que c'est le bon terme, hein, réalité augmentée, fait son entrée dans le sport automobile via la Formule E. Donc c'est vraiment un élément style jeu vidéo là qui vient directement faire son entrée. Je m'explique. Alors, sur une partie du circuit, il y aura un moment hors trajectoire, une sorte de passage qui n'est pas visible, hein, sur la piste. La réalité augmentée, hein, les pilotes le savent où est cette zone, et en passant sur cette zone, ils vont pouvoir charger une sorte de boost, là aussi, et après pouvoir le déployer pendant tel nombre de fois, pendant tant nombre de tours. Voilà, c'est ce qui s'appelle le mode attaque, l'attaque mode en anglais. Et c'est tout nouveau, à voir comment ça va être utilisé, à voir les intérêts à sortir de la trajectoire pour obtenir ce mode attaque, combien de fois ils vont pouvoir l'utiliser. Alors, il n'y a rien de fixe puisque c'est la FIA, 60 minutes avant chaque course, qui va décider des modalités du mode attaque. Donc là, si j'ai bien suivi l'avant-course, ce sera, ils pourront l'activer, je crois, deux fois pendant 4 minutes ou pendant 4 tours, je crois. Suite à ça. Donc après, est-ce qu'ils pourront passer plusieurs fois pendant la course dessus pour en bénéficier plusieurs fois? Là, je ne sais pas, on verra pendant la course, ça sera aussi la surprise de savoir comment les pilotes vont utiliser ça. Et aussi, ce qui est intéressant dans ce mode, pour l'instant, ce que je trouve intéressant, c'est que comme les modalités sont définies seulement 60 minutes avant, sinon on a juste, on sait, ils savent juste la trajectoire, quoi, mais ils ne savent pas comment ce mode va pouvoir être utilisé. Eh bien, en termes de stratégie, il faut s'adapter rapidement. En termes d'écurie et de pilote, avoir une bonne vision de course. Donc, les pilotes qui ont une bonne vision d'ensemble, je pense, vont pouvoir mieux s'en sortir dans ces cas-là. Donc, ça sera intéressant également à ce niveau-là. C'est également un mode, je pense, qui pourra être utilisé de manière défensive. Donc, c'est peut-être pas mal, par exemple, pour un leader qui se fait rattraper par le deuxième. Il sait qu'il va être en difficulté dans quelques tours. Il sort de la trajectoire avant que le pilote qui le presse, qui le suit, le rattrape, et puis comme ça, il bénéficie d'une vitesse supplémentaire, une vitesse de pointe supplémentaire pour se défendre. On va voir, hein, comment ça peut être utilisé à ce niveau-là. Il s'appelle mode attaque, mais pourrait-il s'agir d'un mode défense également? À voir. Franchement, c'est vraiment la grosse nouveauté. À voir si ça perdure, en tout cas sur ce premier e-prix, ça va être le cas. Le premier e-prix donc s'est déroulé en Arabie Saoudite fin 2018 sur le circuit d'Adiriyah. Alors moi quand j'ai vu ça, j'emmenais pas large hein, l'Arabie Saoudite quoi, aller faire une course là-bas pour promouvoir le sport automobile, l'énergie électrique, tout ça. Bon, on sait qu'il y a quand même pas mal de manquements aux droits de l'homme là-bas, et donc je pense pour avoir fait le circuit, je pense pas qu'on ait les garanties que tout soit fait correctement en termes de droits humains et de droits du travail international. Donc c'est quelque chose qui me chiffonne un peu, d'autant plus que la Formule 1, en plus, pour cacher ça, eh bien, a fait toute une campagne de communication les 2 semaines avant la course pour un peu rendre l'Arabie Saoudite bankable et la rendre sympathique. Rendre l'Arabie Saoudite sympathique, ça demande pas quand même pas mal de. Faut quand même avoir du culot quand même pour faire ça. Il aurait mieux valu un peu moins la ramener, mais la Formule 1 a décidé de ne pas faire ça. Ça m'a un peu freiné moi pour regarder le début de la saison. C'est aussi pour ça qu'après j'ai pas regardé le reste, comme j'avais pas regardé la première course. Et là, du coup, c'est l'occasion pour moi de voir ces courses-là. Voilà, donc là aussi débat ouvert, hein. Est-ce que les courses automobiles doivent se dérouler dans de tels pays? Et est-ce que surtout on doit en faire la promotion de ces pays, sachant que la FIA se défend à chaque fois en disant oh, ils ont signé une charte, voilà, blablabla, comme quoi ils respectent bien tous les droits, etc. Mais c'est un peu pour se dédouaner et se constituer une bonne conscience, cette charte, hein, ne nous le cachons pas, on l'a bien vu en F1. Donc voilà, c'est un débat. J'espère que lors de la prochaine saison, je n'ai pas vu le calendrier encore, mais j'espère que cet e-prix n'aura plus lieu. Mais en tout cas, il a lieu et je vais parler que de la course, hein. Attardons-nous seulement sur l'aspect course, hein. Le reste n'est pas intéressant, en tout cas lorsque le commentaire aura lieu. Mais voilà, je souhaitais quand même en parler. C'est important quand même de réfléchir à propos de ces choses-là, de pas être aveugle et de pouvoir avoir tous les éléments en main afin de pouvoir réfléchir là-dessus. Donc n'hésitez pas à réagir également sur ce point. Maintenant, venons-en aux faits, venons-en à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la course automobile. Du côté des qualifs, hein, du côté des qualifs, il y a eu de la pluie pendant les qualifs, donc ça a un peu mixé un peu tout, ce qui est plutôt intéressant. C'est plus intéressant que les autres années, parce que les autres années, c'était injuste, il y avait trois ou quatre groupes, je crois, selon les saisons. Trois ou quatre groupes qui défilaient et qui se succédaient, puis après une super pole. Là, il y a seulement cette année, on a tout revu. Hein. Il y a 2 groupes de 11 pilotes, il n'y a plus de super pole, et tout simplement, on prend les temps à l'issue des 2 groupes, et voilà, on les combine, et ça fait la grille. Tout simplement, après, quand il y a des conditions climatiques changeantes, comme ici, ça revêt un certain aspect d'injustice, puisque, eh bien, par exemple, le groupe qui aura eu piste un peu plus sèche, eh bien, sera avantagé, ou une piste avec un peu plus de grip. Donc là, mon avis, c'est clairement le cas, ce qui va nous donner une course d'autant plus intéressante, avec d'autant plus d'action, je le pense. Parce qu'il y a pas mal de pilotes qui, je pense, ne sont pas au potentiel de leur monoplace ni au potentiel de leur pilotage. Donc, on va voir peut-être des comebacks, des retours pendant la course, pas mal d'actions en milieu de peloton. On va voir ça avec ces nouvelles Formule E, comment elles se comportent également en course, comment les pilotes vont pouvoir s'adapter. Ça va être intéressant. Du côté des saisons précédentes, du côté des saisons précédentes, je l'avais pas, comment dire, je l'avais pas noté, mais il y a eu les champions. Les champions des 4 saisons précédentes sont ici. Le champion de la saison 1, Nelson Piquet. De la saison 2, Sébastien Buemi. De la saison 3, Luca Di Grassi. Et de la saison 4, le pilote français, Jean-Éric Vergne. Donc, vous l'aurez compris, 4 anciens pilotes de Formule 1. Il y en a pas mal, hein, des anciens pilotes de Formule 1. C'est les champions, hein, les anciens pilotes de Formule 1, et ils font des très bonnes performances. Comme quoi, moi je l'ai toujours dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Quand tu arrives en Formule 1, c'est pas par hasard. Même pour des pilotes qui n'ont pas tellement brillé comme Nelson Piquet ou Sébastien Buemi. Voilà, ils ont quand même acquis une certaine expérience. Ils ont quand même acquis tout ce qui est capacité d'adaptation, feedback envers les ingénieurs, vision de course, etc. Tout ce qui fait partie du sommet du sport auto, et ils peuvent s'en servir en Formule E, et on le voit bien qu'ils s'en servent, on le voit bien, il n'y a pas de secret. Ce qui fait également la preuve que la Formule E est une vraie discipline de sport automobile, quoi qu'on en dise. Voilà, ben allons-y sur les comment dire, les qualifs. Les qualifs, le résultat des qualifications. Je vous donne rendez-vous donc sur la vidéo qui est dans la description. Le lien est dans la description. Vous cliquez dessus, vous copiez-collez le lien dans votre navigateur internet ou sur votre smartphone. Et on se donne rendez-vous à 30 minutes pile. Voilà, environ. Vous allez voir, pour vous caler, c'est simple. Je vais énumérer les pilotes au fur et à mesure qu'ils passent avec la caméra. Et puis voilà. Et c'est parti. Donc, bonne course à tous, hein. Voilà, donc le round 1 à Adiria. Il y a 13 courses, je crois, cette année. Donc deux doubles rendez-vous en fin de saison, si je ne me trompe pas. Et donc la grille de départ, la grille se vide, elle était pas mal pleine, hein, il faut le dire, en avant-course. Là, elle se vide bien. On va laisser les pilotes s'exprimer, ce qui est le plus important. C'est eux qui parlent le mieux avec leur pilotage, leur véhicule. Allez, et en pole position, on retrouve Antonio Félix d'Acosta sur BMW et Andretti, un BMW qui s'implique en Formule E, suivi par José María López sur la Dragon qui est un peu invisible l'année dernière, la Geox Dragon cette année, et qui est là. Sébastien Buemi, troisième, la IDAMS également en dents de scie, là elle est grise, hein, cette année, dur à reconnaître, hein, c'est Nissan IDAMS maintenant cette saison. Stoffel Vandoorne, ancien pilote de Formule 1 qui se trouve sur HWRS Lab, très bonne qualification pour sa première qualification en Formule E. Jean-Éric Vergne, le champion en titre sur DST Cheetah, il était sur DS Virgin, il fut un temps, maintenant sur DST Cheetah, DS qui a changé, qui est plus Virgin, qui était Cheetah. Jérôme D'Ambrosio sur Mahindra cette saison, qui fait une bonne qualif également. En quatrième ligne, on retrouve André Lotterer, coéquipier de Jean-Éric Vergne. Bonne qualif également d'ensemble pour Techita. Huitième, Mitch Evans sur Jaguar. Bonne qualification pour le pilote anglais. Gary Paffett, nouveau en Formule E, lui aussi neuvième. C'est une bonne qualification. C'est le champion de DTM en titre, hein, donc pas n'importe qui. Alexander Sims sur BMW, Andretti Motorsport, dixième. Sims, qui est un ancien pilote de développement Formule E et qui a une grosse expérience en monoplace, à voir ce qu'il fait. Daniel Abt, onzième. Felipe Massa, nouveau pilote, et oui, après sa retraite en F1 direct, il vient en Formule 1, 12e sur Venturi. Venturi qui se suivent, hein, puisque Eduardo Mortara, le Suisse, est 13e, juste derrière le pilote brésilien. En 14e position, Oliver Rowland, le pilote anglais, qui a fait une course de Formule 1 en 2015-2016, qui malheureusement, après avoir été champion de Formule Renault 3.5 et troisième en Formule 2 en 2017, n'a pas eu de baquet par la suite. Maximilian Günther, nouveau en Formule E également, deuxième, troisième de F3 Euro en 2017. Il a été en F2 en 2018, mais n'a pas eu de baquet par la suite. Félix Rosenqvist, hein, Très loin sur la grille, il avait fait plutôt une bonne saison l'année dernière, mais n'avait pas su concrétiser ses bonnes performances. Luca Di Grassi, très loin sur la grille. Il a été pénalisé de 10 places pour une enfreinte au règlement. Également pour les Virgin, hein, non, les Virgin, elles sont très loin. Les Virgin Racing, Envision Racing, Virgin Racing, Sam Bird et Robin Frins, deux très bons pilotes, hein. Sam Bird qui a été un prétendant au titre direct l'année dernière. Et malheureusement, c'est un peu des séances d'essai hein, pour les Virgin. Pourquoi ? Parce qu'elles en ont eu très peu avant saison. Donc, va pas falloir s'attendre à grand-chose, je pense, pendant cette course. Et enfin, les Nio qui sont en dernière ligne avec Tom Dillman qui ferme la marche. Elles, par contre, elles ont été pénalisées pour avoir enfreint le règlement en qualif. Je crois qu'elles ont fait trop de tours qualif, trop de tentatives. Il y a un nombre de tentatives limité. Alors que là, on voit le tracé d'Adiria. Avec le mode attaque, il se situe au début de la ligne droite de départ-arrivée, donc ça va être assez simple d'aller hors trajectoire, je pense. Donc on voit un peu ce tracé, un tortueux, hein, le premier secteur, avec pas mal d'enchaînements de virages. Le deuxième secteur qui est ensuite un peu plus rapide avec des lignes droites. Et enfin, la ligne droite de départ-arrivée. Donc voilà, les monoplaces s'avancent pour se placer sur la grille de départ. Est-ce que la piste est sèche ? On dirait qu'elle a plutôt bien séché. À voir si c'est pareil partout. C'est pas dit que ce soit pareil partout. On va voir le grip que ça donne. Et oui, on a pas mal de nouveaux venus dans la Formule 1 en termes de constructeurs et de constructeurs automobiles assez connus. Qu'on a vu BMW là qui a fait son entrée en plus de DS. Je crois que Mercedes fera son entrée la saison prochaine. Donc pour 2019-2020. Donc c'est une discipline qui attire. Les batteries sont les mêmes pour tous. Je crois en termes de développement, c'est les moteurs qui peuvent être développés. Donc les moteurs électriques et la transmission également. Tout le reste, sauf exception, le châssis par exemple, c'est le même pour tout le monde. Après, il y a des petits réglages évidemment qui peuvent être faits. Mais comme on le voit par exemple avec Virgin, qui est une vision Virgin qui est un peu à la ramasse en début de saison et qui va se servir de cet hybride comme test. Hein. C'est un peu triste hein, de voir une vision de Virgin comme ça. Je n'ai pas pour l'instant les raisons de leur absence de test. Mais nous allons voir Felipe Massa hein, pour son premier hybride. Hein. Il est là motivé chez Venturi. Venturi qui était un peu en dents de scie là, la saison dernière, même les autres saisons, hein, c'est compliqué pour le team, qui pourtant est une sorte de pionnier sur la technologie. Mais voilà, on s'installe sur la grille de départ, Antonio Félix da Costa. Oh, oh là là, oh, il y a déjà des difficultés pour s'installer on dirait, parce qu'il s'est mal installé sur la grille on dirait. Qu'est-ce qui va se passer? Alors déjà... Aïe, voilà, il recule, je pense pas qu'il aura une pénalité pour ça du coup. Ah oui, c'est la ligne bleue en fait, c'est pas la ligne jaune, c'est la ligne bleue. Il a un peu de travers, hein. Ça va être compliqué pour démarrer, mais au moins il y aura pas de pénalité. Et c'est compliqué quand même d'avoir la pole et de faire une erreur comme ça. Hein. Je pense que en deuxième position, ça va... José María López va peut-être profiter de ça. Sébastien Buemi derrière également. Sébastien Buemi qui a souvent été prétendant au titre. Qui n'a pas eu le titre, il aurait pu être double champion en titre, mais en saison 3, il a fait n'importe quoi, beaucoup trop d'erreurs. Il a craqué mentalement, c'est un peu son défaut, malgré que ce soit un pilote très rapide. Alors, les lumières, elles sont où les lumières là pour démarrer ? 5, 4, 3, 2, 1... Et c'est le début de cette saison de Formule 1. Et Antonio Félix da Costa a bien géré son départ malgré tout. Il bouche la porte directement. Troisième position, il y a Buemi qui va peut-être en profiter à l'extérieur. Jean-Éric Vergne qui est déjà quatrième. Ouais, Buemi, c'est pas mal. Ils sont côte à côte. Il n'y a pas d'accident derrière, a priori. Et c'est parti. Hein. Alors là, ça va être dur au début pour reconnaître les monoplaces, sachant qu'il y en a qui ont changé de couleur. Bon, Andretti, c'est toujours blanc et bleu. Hein. En deuxième position, Buemi qui a réussi à passer José Mario Lopez, a priori. D'après le classement qui s'affiche, et Jean-Éric Vergne qui a déjà dépassé Stoffel Van Dorn, qui avait fait une bonne qualif, et vaut mieux pas prendre de risque au départ. Je pense qu'il n'y en a aucun qui a pris de risque. Oh, l'accident pour une Venturi. Ouais, c'est Eduardo Mortara, aïe, qui malheureusement a foncé dans le mur. Ah, il peut reculer quand même, il a perdu l'aileron avant, ça va être compliqué de revenir dans la course. Alors que là, on voit une petite animation de Mortara dégoûté. Ah, ils ont le souci du détail, hein, à la Formule E. Drapeau jaune, évidemment, dans le secteur concerné. Et il y a le secteur avec les enchaînements de virages. Et Mortara qui peut repartir, mais loin derrière, en dernière position, il va devoir s'arrêter au stand pour changer l'aileron avant. Je sais pas comment ça... Il peut être changé cet aileron avant de Formule E, on va le voir. Hein. Il y a pas mal de poussière, hein, sur le circuit, on voit. Donc faire attention aux grips, je pense que sur le premier tour, il a pas fait attention. Les freins qui étaient peut-être pas chauds, les pneus peut-être pas à bonne température. Hein. Antonio Félix da Costa qui tient bon. Ensuite, suivi par Buemi Lopez qui colle au train de Buemi Van Dorn, hein, qui vraiment... Et là, dans le coup, derrière Vergne, a essayé de l'attaquer, a essayé. Alors que là, ça se bat, hein, dans le peloton, là. Il y a une belle bataille. Là, Stoffel Vandoorne est dans le coup. L'Otterer qui est un peu à 1 seconde et demie, un petit peu. Alors, est-ce que aussi dans cette course, est-ce que la gestion, pas du carburant, mais de la batterie va jouer quelque chose? Ça, on ne sait pas cette saison également. C'est un peu l'inconnu. Alors que les Virgin sont un peu remontés, 17e et 18e. Mais bon, c'est suite à, je pense, des sorties de piste. L'auteur qui revient un petit peu. D'Ambrosio, ouais, qui bouchonne un peu, qui bouchonne un peu, qui est suivi par Evan Sims. On voit là, les Sims qui fait un très bon début de Grand Prix, un très offensif. On va voir ce qui arrive à Mortara. Il est parti tout seul, hein. Il est parti tout seul, hein. Ah oui, il a bloqué les rouges, j'ai l'impression. Ah oui, il était peut-être un peu hors trajectoire avec la poussière et tout. C'était un peu compliqué. Et oui, il a bloqué les roues. On le revoit de sa caméra. Non, c'est pas sa caméra. Ça, là, c'est Felipe Massa. Ouh là là, le départ. Ouh, le double dépassement de Felipe Massa à l'intérieur. Là, fallait avoir du courage là. Ils sont passés à 3 de front. C'est assez impressionnant. Ces monoplaces de Formule 1 qui peuvent bien résister également au contact, donc qui peuvent ouvrir à des dépassements un peu différents. Comment va se gérer cette course, hein? Ça, c'est un peu l'inconnu. Mortara qui est ressorti des stands, donc qui a pu changer apparemment d'aileron avant, mais je crois qu'il est reparti à un tour. Hein. Et on le voit en haut à gauche de l'écran, il reste 41 minutes et 17 secondes. Hein. Je vous dis ça également pour pouvoir vous caler si jamais il y a un petit décalage chez vous entre mes commentaires et la vidéo de la course. J'espère qu'on aura des caméras embarquées avec la vitesse de ces nouvelles Formule E en ligne droite, hein, notamment. Et Di Grassi là qui pousse là, qui est un peu bloqué, on dirait. C'est ce que je vous disais, hein, il y a des pilotes qui ne devaient pas se retrouver aussi loin dans la course et qui, à cause du format particulier des qualifications et des conditions changeantes, se le sont. Nelson Piquet, hein, qui remonte. Et qui double Gary Paffett, hein, le rookie. Alors que l'Otterer, hein, coéquipier de Vergne, est bien revenu. Il a doublé Van Dorn. Van Dorn qui se fait dépasser un peu par tout le monde, là, par D'Ambrosio également. Il accuse un peu le coup, là, en ce troisième ou quatrième coup de tour. Ouais, ça fait 2 pilotes belges, hein, D'Ambrosio et Van Dorn, hein, cette saison. Mais comme le dit Dario Franchitti dans les commentaires officiels, les pilotes là sont juste en train d'essayer d'appréhender le circuit qu'ils ne connaissent pas en conditions course. Hein. Ils ont fait des séances d'essais libres et une qualification et après une course. Tout est dans la même journée, hein, je le rappelle, en Formule E. Comme les circuits, comment dire, les courses sont souvent en ville, cela permet de pas trop gêner la circulation en ville, de faire tout le même jour et pas sur tout un week-end. Alors que là, Jean-Éric Vergne qui va essayer de dépasser José Mario Lopez à l'intérieur. Ouais, c'est un peu court. C'est un peu court pour le pilote français qui s'est un peu ravisé sur la fin de sa tentative. Et heureusement, sinon ça aurait fait un accrochage assez triste. Vergne est un pilote très agressif, hein, on le sait, hein, il va pas hésiter à y aller sur le pilote argentin. Alors que Buemi revient sur Da Costa et est dans la seconde du pilote portugais. devant. Ce serait bien qu'on revienne devant d'ailleurs hein, sur cette lutte hein, avec Dacosta et Buemi lutte pour la tête de course. Et là, c'est également Di Grassi hein, sur Oliver Roland encore, hein, qui il veut remonter un Di Grassi. Di Grassi, c'est quand même un pilote qui a lutté pour le titre de nombreuses fois. L'année dernière, c'était compliqué en première partie de saison, mieux en deuxième, mais c'était quand même trop court pour pouvoir véritablement être une menace pour Vergne. Mais voilà, sinon les autres saisons, il était globalement toujours dans le coup, les trois autres saisons. Donc cette saison, il veut pas rester 16e, il veut pas faire figuration. Encore moins être derrière son coéquipier Daniel Abt, qui est actuellement en 11e position. Alors que les rookies, là, 9e Alexander Sims, 10e Massa, ils font bonne figure. Hein. Faut dire que cette saison, est-ce qu'il y a peut-être moins de gestion de batterie à faire? Je ne sais pas, on verra hein, au fur et à mesure de la course. Hein. Ce sera peut-être une des surprises d'ailleurs de cette course. Pour l'instant, personne n'est passé dans le mode attaque, a priori. Peut-être c'est quelque chose qui sera réservé plus tard. Et Vergne apparemment a dépassé José Mario Lopez, mais on n'a pas vu le dépassement hein. Réalisateur qui s'attache sur la lutte dans le peloton avec Oliver Roland qui a dépassé Gary Paffett et qui n'est donc plus sous la menace de Luca Di Grassi. Paffett qui semblait un peu gêné. Paffett qui a reculé, hein, qui était bien qualifié 9e, mais qui là en course accuse le coup, a déjà perdu 6 places et bloqué un peu le peloton. Il risque de se faire dépasser également par Di Grassi dans l'opération. Lotterer hein, qui suit Vergne comme son ombre et qui a également dépassé José Mario Lopez pendant ce temps. Et oui, Lopez, hein, qui a un peu fait comme Van Dorn tout à l'heure, hein, à se faire passer par les deux Techita assez rapidement à la suite. Voilà, les deux Techita qui se suivent, hein, mais vraiment, hein, Lotterer qui colle au train de Vergne, attention, hein, Jean-Éric Vergne, qui va être peut-être attaqué par son coéquipier, attention à pas s'accrocher, hein. On sait que Vergne est un peu rude hein, dans ses défenses, mais Lotterer, il sait également qu'il y a son chef de file devant. À voir hein, s'il est bien plus rapide que Vergne, peut-être que dans la radio ça va parler. Il est dans l'aspiration de Jean-Éric Vergne dans la ligne droite de départ arrivée. Est-ce qu'il va pouvoir le faire au freinage? Non, il ne le tente pas. Il était peut-être pas assez près. Alors que devant, c'est toujours Antonio Félix Dacosta qui mène la danse devant Sébastien Buemi. Qui a une bonne seconde. Hein. Il n'arrive pas à remonter. Un petit peu plus que ça. On le voit là. Même Félix Dacosta a un peu repris le large là par rapport à il y a un ou deux tours. Alors que là, on a un replay de Luca Di Grassi. Ouh là là, le freinage. Ouh, est-ce qu'il va toucher le pilote qui le précède? Oui, il est trop. Il en veut trop là, Di Grassi. Heureusement, c'est sans conséquence sur l'aileron arrière de. Je pense que c'est Gary Paffett, hein, ou c'était un peu avant avec Ollie Roland. Mais attention, il a peut-être endommagé son aileron avant dans l'histoire, on ne sait pas, faudrait voir. Alors que là, c'est la tête de course, hein, les deux premiers suivis des deux Techita et Lopez hein, qui suit quand même. Hein. Il a eu un peu de mal, là, il s'est fait passer par les deux Techita, mais depuis, il a retrouvé un peu de rythme. D'Ambrosio qui est derrière également, qui est pas loin, qui est dans le coup hein, pour le podium, voire même pour la victoire. Hein. La course est longue, encore 35 minutes de course. Alors que là, Lotterer, là, il est mal sorti du dernier virage et il est... Il subit la pression de José Mario Lopez une nouvelle fois qui va essayer de le repasser. Ouais, c'est un peu court. Ouh, c'est bien, il a pris large là pour essayer de recroiser. Attention, il y a D'Ambrosio en embuscade juste derrière. Mais non, et Lotterer a pu garder sa position. Lopez qui se décale hein, pour lui faire peur, mais sans succès pour l'instant. Mais la pression est sur le pilote allemand qui a un peu reculé là. Du coup, il était dans le ring de Vergne, voire plus rapide. Et là, tout d'un coup, il s'est un peu affaibli. Il a dû louper un peu son dernier secteur, je pense. Peut-être un secteur où il est un peu moins rapide que son coéquipier français, où il s'est raté tout simplement. Parce que là, il a quand même deux bonnes secondes de retard quasiment sur Vergne. Ouais, deux bonnes secondes, on le voit là à gauche. Deux secondes une, c'est quand même beaucoup. Ce qui a permis également à D'Ambrosio hein, de revenir directement dans les échappements de Lopez, pardon. Et Van Dorn, la 7e, après avoir un peu accusé le coup, là, il est dans son rythme, en tout cas, il subit la pression de personne, et il met pas la pression également sur quelqu'un. Ah, il y a Oliver Turvey et Tom Dillman, on a une indication qui sont passés dans l'attaque mode, qui peuvent en bénéficier. Il va voir comment ils vont utiliser ça. C'est vrai qu'il y a un petit bouchon là qui s'est créé à partir de Nelson Piquet jusqu'à Turvey. 4 secondes entre 7 pilotes là. Dacosta toujours en tête. Ouh là là, alors que derrière il y a eu un accident là. Il y a eu un accident avec une Mahindra, je crois. C'est Rosenquist. Oui, c'est Félix Rosenquist. Qu'est-ce qui s'est passé avec le pilote suédois? On a vu qu'il a un peu tapé le mur à l'intérieur, comme si s'était passé quelque chose au dernier virage. On n'a pas vu ce qui s'est passé. Mais c'est l'abandon, hein, apparemment, pour le pilote suédois. Peut-être une défaillance mécanique également à voir. Alors que là, on suit la lutte entre Jean-Éric Vergne et Sébastien Buemi. Hein. Alors, il est revenu dans les échappements de Buemi, on ne sait pas comment, mais très rapidement. Il essaie de le passer sur l'extérieur. Ouh, il lui fait le freinage à l'extérieur. Ouh là 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 là, très bien joué de la part du pilote français. Ouais, il avait dû préparer son dépassement et voir que Buemi freinait très tôt, voire faisait un peu de lift and coast à ce moment-là. Et il a saisi l'opportunité. Waouh, quel dépassement de la part du pilote français sur l'extérieur comme ça. Fallait y aller, hein, dans le premier virage. Totalement inattendu. Et Buemi qui a reculé tout d'un coup, là. C'est vrai qu'il est plus dans le rythme de Da Costa. Vergne en a profité, hein, pendant ce temps. Il y a des vrais, véritables changements de rythme, hein, on le voit dans cette course. Peut-être l'évolution de la piste, hein, qui fait ça. La compréhension également de la monoplace qui doit jouer en situation de course. C'est tout ça, hein. La course peut encore évoluer. En tout cas, celui qui semble tenir la barque, c'est Antonio Félix da Costa en tête, hein. Un rythme qui semble tenir un rythme plutôt régulier. Alors que Dillmann et Turvey ont dû utiliser leur attaque mode, et Maximilian Günther peut en bénéficier également maintenant. Ah, il reste deux attaques mode là. On voit vraiment. Du coup, il y en aura deux qui peuvent être utilisées par tous les pilotes. Donc on peut passer deux fois dans la zone, si j'ai bien compris, et puis après utiliser l'attaque mode pendant un certain temps. Alors on revoit le dépassement de Jean-Éric Vergne sur Sébastien Buemi. Magnifique, magnifique. Ça valait bien un replay, en effet. Moi, je m'y attendais pas à, hein, ce dépassement, honnêtement, mais là, je lui ai vu faire le freinage, là, ça se voyait, bam. Il faut maîtriser également le système de freinage, il faut avoir confiance en tout ça, et verniller, aller. Alors que là, on suit une lutte avec, ouais, avec Di Grassi. Ah oui, du coup, c'est Piquet devant, après, il y a Roland et Abt, coéquipier de Di Grassi. Non, là, c'est Felipe Massa. Ah non, d'accord, c'est une autre lutte encore. C'est avec Van Dorn qui a, ouh, il a redescendu. Qu'est-ce qui s'est passé pour le pilote belge? Il est 9e maintenant. Derrière lui, il y a Massa. Devant lui, il y a Sims. Et derrière, il y a Abt. D'accord. Ah oui. Là, il a vraiment reculé, hein. J'avais pas vu. Il s'est fait doubler par Mitch Evans et Alexander Sims, qui fait un très bon premier e-prix. Faut le dire. Ah, l'activation de zone, on la voit, c'est vraiment à l'extérieur. Ah oui, il faut vraiment, oui, ça représente vraiment une perte de temps parce qu'il faut vraiment freiner en sortie de virage pour aller à l'intérieur et bénéficier de ce mode attaque. Donc ça représente vraiment une perte de temps. Faut vraiment bien doser ça, hein. Oh, il va essayer de le faire aller. Felipe Massa dans le même virage que tout à l'heure où il avait doublé deux pilotes. Il le fait magnifique. Massa, franchement, pour son premier e-prix, il impressionne. Il a doublé Stoffel Vandoorne là. Stoffel Vandoorne qui perd des positions, hein, qui n'est pas dans une bonne phase là. Il faut que Daniel Abt en profite avant que le pilote belge se remette dans le rythme. Là, c'est pour un point quand même. Les 10 premiers, hein, ont des points, c'est comme en Formule 1. C'est 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 3, 2, 1, il me semble, ou 2, 1. Il y a 3 points pour la pole position, donc Antonio Félix d'Acosta bénéficie de 3 points et 1 point pour le meilleur tour en course. Voilà, en plus en glissade, hein, Felipe Massa, bien maîtrisé. Il est passé, pour l'instant il fait un très bon premier e-prix au freinage. Entre l'auteur sur l'intérieur sur Buemi qui est un peu dans le mal là avec sa Nissan Idams. Et oui, peut-être également perte de puissance hein, de la part de la Nissan Indams. Il y a aussi ça qui joue hein, le moteur électrique de chaque monoplace. Alors que là, les deux Techita là qui reviennent sur Dacosta, Dacosta qui gère également, on voit l'énergie, la batterie, ce qui reste. Hein, donc il y a vraiment un aspect peut-être gestion d'énergie qui va rentrer en jeu, en ligne de compte. On sait que l'année dernière, les Techita étaient très fortes sur ce point. C'est ce qui avait fait quand même une bonne différence, en plus de la pointe de vitesse de Vergne. Mais elles étaient très fortes, elles bouffaient très peu d'énergie par rapport à d'autres concurrentes. Là, la course est encore longue, hein, 28 minutes, et on risque d'avoir une lutte pour la victoire, là, peut-être entre les deux Techita et Dacosta. Dacosta, peut-être, qui a bénéficié également d'être en première position pour économiser un peu d'énergie, ça serait intelligent de sa part. Hein. Il faut voir ça également, hein, pas attaquer juste pour attaquer. Il a un peu glissé, là, Dacosta, ce qui bénéficie à Vergne, là. Voilà, cette zone d'activation qui est vraiment dans une trajectoire assez désavantageuse. Et là, Jean-Éric Vergne qui est vraiment dans les échappements d'Antonio Félix Acosta. Hein. C'est la lutte là pour la première place, peut-être pour la victoire. L'Opereur en embuscade derrière, mais qui va peut-être essayer de profiter d'une erreur hein, des deux, hein, peut-être d'un accrochage. Il est vraiment très proche maintenant, Vergne. Il se montre dans les rétroviseurs de son adversaire. Ah, le tenant du titre là qui en veut dès la première course de la saison. Hein. Alors que là, on voit Mitch Evans, Oliver Rowland et Eduardo Mortara sont passés par la zone d'activation du mode attaque pour en bénéficier. Pour Mitch Evans, ça peut servir de manière défensive parce qu'il est suivi de très près par Sims Massa. Et Oli Rowland, pour l'instant, il est un peu entre deux eaux. Ça va pas trop lui servir dans les minutes qui viennent. Mortara, peut-être, pour faire le meilleur tour. Alors qu'André Lotterer, en troisième position, vient d'effectuer le meilleur tour. Il revient sur les deux premiers de la course. Hein. Il est qu'à une seconde de Jev. Pour une première course, c'est plutôt une course intéressante. Il y a beaucoup d'inconnus, on ne sait pas comment ça va évoluer. Alors que là, il est bien sorti, Vergne, là, du dernier virage, vraiment collé au train de Dacosta, qui va refaire l'extérieur là sur le pilote portugais, comme il l'a fait à Buemi. Oui, il essaye, mais Dacosta freine plus tard que Buemi tout à l'heure. Ils vont se toucher, non? Dacosta sur l'extérieur. Allez, Vergne est passé et est en tête du premier Grand Prix de la saison. Le pilote français Dacosta, il va essayer de le refaire. Non, il bouge l'intérieur, Vergne, pour pas se faire avoir dans le virage Massa, comme on peut l'appeler là aujourd'hui. Et Lotterer en a profité de cette bataille pour revenir dans le mix. Alors, les Techitas semblent vraiment en forme hein, cette saison. C'est vraiment dans la lignée de l'année dernière. En termes de batterie, hein, ça se tient, 61%, 61%, 60%. Hein. On voit un ouais, Buemi 58%. En effet, les Nissan Indams ont dû faire du lift and coast, hein, d'où le dépassement sur l'extérieur de Vergne tout à l'heure. Hein, ceci expliquant cela. Lopez également, hein, c'est vrai. Tous ceux qui sont en dessous de 60, là, ils bouffent pas mal de batterie. Hein. Les Audi Apt également, on dirait. Enfin, Di Grassi particulièrement. 4% de moins que son coéquipier allemand. C'est assez étonnant, mais c'est vrai qu'il avait fait un début de course très agressif pour essayer de se dégager du peloton. Ça n'a pas marché, donc ça risque d'être compliqué pour lui en deuxième partie de course. Alors que Oliver Rowland, il lui reste 30 secondes pour utiliser son mode attaque. Ah oui, il y a vraiment, je crois, 4 minutes pour pouvoir l'utiliser. Hein. Je crois que c'est ça que j'ai entendu. Ils peuvent l'utiliser deux fois. Ils ont 4 minutes pour utiliser. Ça procure quand même quelques kilowatts supplémentaires. Alors que Jean-Éric Vergne, là, semble se détacher un peu de Antonio Félix Acosta. Bon, il y a qu'une seconde, hein, mais en tout cas, il est plus sous le joug d'une attaque possible du pilote portugais. Alors que là, où est Stoffel Vandoorne? Il a encore reculé, il est 12e, hein, le pilote belge, après une très bonne qualification, mais c'est son premier e-prix, il faut peut-être pas être trop exigeant pour l'instant avec lui. Sims, hein, qui fait un très bon premier e-prix. Alors j'en ai un peu parlé tout à l'heure, grande expérience, il n'a pas accompli beaucoup de grandes choses dans sa carrière, hein, des résultats d'honneur principalement et beaucoup d'expérience. C'est ça qui peut l'aider également, son expérience, à pouvoir s'adapter à une nouvelle discipline et à faire un premier résultat correct. Felipe Massa, bon ben on le connaît, un des pilotes les plus expérimentés de Formule 1. Et du coup, ça lui sert directement, hein. Il est 9e, très bon premier e-prix pour l'instant. On va voir hein, sur la longueur également. Alors qu'André Lauterhaar met la pression sur Anthony Félix da Costa. Il sait Lauterhaar aussi qu'il aimerait bien aussi damer le pion à son coéquipier français hein, et gagner le premier e-prix. Alors que là, il y a plein de pilotes qui essaient de bénéficier de l'attaque mode, on voit. Il y en a plus que tout à l'heure. Les pilotes de tête, non, hein, pour l'instant. Ouais, les pilotes de tête, il y a quand même un gros enjeu. Hein. Si on s'éloigne de la trajectoire, là, pour aller chercher l'attaque mode, on peut perdre une position. Là, c'est sûr, pour les trois premiers, il y a beaucoup à perdre. Peut-être pour. Ouais, je dirais pour Lauterhaar, il y a peut-être moins à perdre, mais il faudrait que Vern soit plus lent, qu'il y ait une bataille entre Da Costa et lui. C'est compliqué. Peut-être Buemi en quatrième position, hein, qui est pas très loin avec José María López. Peut-être qu'eux pourraient tenter le coup de poker s'ils sentent que leurs concurrents qui les précèdent sont plus lents. Faut voir. Les six premiers, hein, les six premiers sont dans le coup. Hein. Les six premiers sont en très peu de secondes là. Est-ce qu'il y en a un des premiers qui va décider d'aller dans l'attaque mode? Non, non, j'ai pas l'impression, non, pas encore. Peut-être trop tôt encore dans la course. Ils peuvent le faire un deux fois dans l'e-prix. Et à chaque fois qu'ils rentrent dans l'attaque mode, ils ont 4 minutes pour l'utiliser, si j'ai bien compris. On voit que Massa, il lui reste un attaque mode à utiliser. Apte, ou que c'est son deuxième, je sais pas, je connais. Là, l'infographie, là, me trompe un peu. On va voir. De toute façon, on le saura tout à l'heure, ils vont le remontrer. Voilà, il lui en reste un à Massa. Apte, un aussi. Alors, quelle est la signification de des flèches? Ça, c'est un mystère pour l'instant pour moi. On voit que les six premiers encore, il leur reste les deux attaques mode. Hein. Personne n'a voulu s'y mouiller. Alors que derrière, on a tenté le coup. Je pense que c'est l'énergie qui doit rester. Hein, comment dire, les flèches. Et Massa, il a utilisé quasi tout. On voit que Dillman a quasi rien utilisé en 19e position. Donc voilà. Et le fan boost, on a le résultat. C'est le boost qui va pouvoir être utilisé en deuxième partie de Grand Prix. Stoffel Vandoorne, Felipe Massa. Antonio Félix da Costa, ouh, alors là ça pourrait vraiment tout changer. Qui sont les deux autres pilotes? Daniel Abt, qui pourrait en avoir besoin pour avoir un point peut-être, et Luca Di Grassi, toujours un hein, populaire, hein, les pilotes Audi Abt Schaeffler. Et du coup là pour Antonio Félix da Costa, c'est une aubaine hein, pour peut-être revenir en tête ou se défendre par rapport à Lauterhaar. Alors que Dillman est en train d'utiliser son attaque mode, on a vu là, il a perdu un chevron. Sur l'infographie, Massa, il lui reste 10 secondes pour finir son mode d'attaque. Le mode d'attaque, c'est une sorte de push-to-pass, en gros. Hein. Faut le voir comme ça pour ceux qui suivent l'IndyCar. C'est une sorte de push-to-pass. Ou alors que là, c'était serré entre, je crois, Daniel Abt et c'est Stoffel Vandoorne, là, non? Non, je crois pas. Si c'est Daniel Abt, je pense pas que ce soit Van Dorn. C'est Oliver Rowland, ouais. Et Rowland est resté devant. Rowland est resté devant. Alors qu'on le voit, oui. Sur le halo, il y a une lumière bleue. Quand elle est bleue, ça veut dire que l'attaque mode est. C'est que l'attaque mode est chargée, je crois. Et quand il est mauve, ça veut dire qu'il est en train d'être utilisé, il me semble. Donc c'est pas mal d'avoir utilisé le halo comme moyen de communiquer avec également le public. On voit les halos sont pas allumés du tout, donc ils ont pas l'attaque mode les deux. En théorie, hein, si j'ai bien compris également. Ah oui, là c'est D'Ambrosio qui est suivi par. Non, Ambrosio qui suit Lopez et Buemi, hein, bataille pour la quatrième place. Hein. Faudrait pas qu'ils se battent trop parce que après pour comment dire, pour revenir sur les trois premiers, ça risque d'être compliqué. Alors que Stoffel Vandoorne, le pilote belge, utilise son fan boost. Est-ce que c'est pour se défendre de Di Grassi pour attaquer Piquet? On n'a pas la vue là-dessus, hein, donc on peut pas le savoir. Là, c'est très serré pour la quatrième place. Et ouais, les Nissan Indams qui doivent vraiment économiser leur énergie, qui sont un peu matrice d'énergie, donc ça va être compliqué de rester quatrième pour le pilote suisse. Il sera obligé de lâcher sûrement un petit peu. Parce que là, Lopez et D'Ambrosio sont vraiment juste derrière. Alors que le coéquipier, c'est qui le coéquipier déjà de Buemi cette saison sur la Nissan Indams? C'est Oliver Rowland. Hein. Oliver Rowland qui est en 11e position. Et qui aussi subit ça, 45%. Les leaders sont à 46, hein, Vern da Costa, Lauterhaar. Mais Lopez qui va passer. Buemi, oui, il a essayé de freiner plus tard, il a bloqué. Oh, il est sur l'extérieur là. Lopez, il a été un peu trop peut-être entreprenant et du coup c'est D'Ambrosio qui risque d'en profiter. Il est plus rapide sur la réaccélération, peut-être dans le prochain virage. Non, il a pas osé faire l'intérieur. D'Ambrosio, il reste en sixième position tranquillement. Et ouais, Lopez qui est qu'à 42%, il faut qu'il fasse attention. D'Ambrosio, lui, il est bien, il a 45% d'énergie, de batterie. Donc c'est plutôt pas mal. Ouais, ils ont dû perdre du temps, là, les 3-1 dans l'affaire par rapport au podium provisoire et virtuel. Il reste 42%, il reste 18 minutes sur 45. Ouais, c'est limite quand même, hein, c'est limite. Il faut quand même une certaine gestion d'énergie, hein. Alors, pour l'instant, je ne sais pas si le développement est possible en cours de saison de la part des constructeurs, hein, il faudra voir. Alors que l'auteur est entré dans la zone d'attaque mode. Pour la première fois, c'est le premier des 6 premiers, hein, qui rentre. Quitte à perdre un peu de temps, il a accepté de perdre un peu de temps par rapport à Da Costa parce qu'il se sent plus rapide que lui. Alors que là, il y a l'attaque encore. La défense de Buemi. Lopez à l'extérieur, mais qui se retrouve à l'intérieur de l'autre virage. Oh oui, il a insisté, il a bien fait et il double. Et c'est D'Ambrosio qui en profite pour également doubler Buemi. Ah, le pilote suisse qui a grandement perdu en voulant peut-être surdéfendre alors qu'il était en difficulté. Et D'Ambrosio, hein, ce filou, hein, D'Ambrosio qui risque de vraiment tout rafler parce qu'il a mieux économisé sa batterie, il va pouvoir donc plus attaquer sur la fin de course. Et Lopez, quand même, beau dépassement, fallait le faire, de continuer à insister sur l'extérieur puisque c'est l'intérieur du petit virage, du deuxième virage, sans sortir de la piste. Buemi a laissé la place, ça a été bien fait. Un beau dépassement. Buemi qui a la chance d'avoir un peu d'avance sur Mitch Evans, donc là il faut qu'il aille chercher les points, je pense, sur ce premier repris, pas qu'il en fasse trop. C'est bien une sixième place pour commencer la saison dans une saison un peu imprévisible, hein, on le voit, la course est elle-même imprévisible. Alors que Gary Paffett se retrouve 21e, qu'est-ce qui s'est passé? 21e, hein, Gary Paffett. Et est-ce qu'il a abandonné, qu'on ne l'ait pas vu, parce qu'il est derrière Mortara qui était à un tour, il me semble. Ouais, il a beaucoup reculé, hein, le pilote britannique. Alors que là, c'est la bataille pour la deuxième place. Lauterer qui est déjà revenu dans les échappements d'Acosta. Il était vraiment lent alors d'Acosta. Il est en mode économie là, je pense, hein, parce que où il a un problème mécanique. Et Lauterer qui va utiliser l'attaque mode, hein, je pense là, pour passer facilement Antonio Félix d'Acosta. Et c'est là que d'Acosta aurait dû avoir un peu plus de vision de course et rentrer dans l'attaque mode également pour pouvoir se défendre. Malheureusement, c'est pas le cas. Maintenant, Lauterer avec l'attaque mode, il va pouvoir également essayer de revenir sur son coéquipier Jean-Éric Vergne pour lui mettre la pression, le pousser à utiliser un peu plus d'énergie. Parce que là, Vergne, je pense, il a pas mal économisé là. Il a de l'expérience en Formule E maintenant. Ça va être dur un peu Antonio Félix d'Acosta, mais il lui reste deux attaques mode. Hein. Mais là, il est. En termes de rythme, il est en dessous des Techita quand même. Il a bien résisté pendant un moment, mais. Et là, c'est qui passe? C'est Jean-Éric Vergne. Il passe dans l'attaque mode. Il sait que l'auteur là. Donc, il passe dedans pour en bénéficier. Ouais, également pour le 4. Le sixième, c'est Buemi qui passe. Je pense qu'il l'utilise, il l'a pour pouvoir se défendre si jamais Mitch Evans revient. Bon, il a 6 secondes derrière. Mais c'est compliqué. Alors que là, il rentrait au stand. Les deux Techita rentrent au stand. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour les deux Techita qui rentrent au stand là soudainement? Oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe? Ah là, c'est la Bérézina. Les deux Techita qui étaient promis à faire 1 et 2 dans la course et qui là rentrent au stand. Ah, c'est pour un drive-through, c'est pour un drive-through. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils aient un drive-through? Ah, c'est un élément de course qui a été totalement occulté là, il n'y avait pas d'infos sur l'écran. Mais Vergne et Lauterer ensemble ont un drive-through. Alors là, c'est leur total renversement de situation là. Hein. Alors que là, José Mario Lopez a essayé d'avoir l'attaque mode, mais l'a loupé. Il l'a loupé, il a loupé la zone, il a essayé de perdre le moins de temps possible, mais il n'a ni eu l'attaque mode, et en plus, il a perdu la place par rapport à Jérôme D'Ambrosio, qui est deuxième. D'Ambrosio qui récolte ben tout, hein, tous les lauriers là pour l'instant, et Da Costa qui a une avance folle maintenant et qui peut gérer. Ah, c'est fou. Verne qui est reparti cinquième suite à son drive-through, Lauterer septième. Ouais, ça va être dur, hein. Lopez qui se retrouve troisième, Buemi quatrième, Buemi qui s'en sort très très bien. Alors là, c'est vraiment incroyable. Incroyable première course avec ce double drive-thru. Et on revoit en ralenti là, José Mario Lopez qui s'est loupé, qui s'est loupé. Complètement. Alors là, c'est une grosse erreur, hein. Et la zone d'activation est bien mise, franchement, parce que justement, ça demande quand même de pas perdre trop de temps, mais à la fois de bien être précis dans son pilotage. Et là, il a fait une grosse erreur, le pilote argentin. Ce qui a définitivement profité à Jérôme D'Ambrosio, qui part maintenant à la poursuite d'Antonio Félix Da Costa. Da Costa, il lui reste deux attaques mode, il est jamais rentré dans la zone. D'Ambrosio, il utilise son dernier, il me semble. Alors que Verne, là, ouais, Verne, il a, et maintenant, là, il remonte directement sur Lopez, hein. Lopez qui, là, ah oui, je pense que mentalement, ça a été très dur de louper l'activation de zone. Il s'est fait passer également par Buemi. Ou bien il a un problème. Et c'est dire le rythme des Techita, hein, pour que Verne soit déjà là, hein, dans le mix et puisse lutter pour le podium, hein. Lauterer qui colle Evans. Les Techita qui ont l'air vraiment, vraiment très, très bien en ce début de saison. Il va falloir confirmation à la deuxième course, mais voilà, ça va être compliqué. Alors que oui, rappelons-le, le fan boost qui est bénéficié par Da Costa. Ah, peut-être Di Grassi, hein. Ah, et Di Grassi qui a remonté dixième, hein. Il y en a eu qui ont reculé, hein. Sims, Alexander Sims qui a reculé en 15e position. Alors est-ce que lui aussi il a eu un drive-thru? Qu'est-ce qui s'est passé pour le pilote anglais qui faisait une très bonne première course? Felipe Massa 16e, qu'est-ce qui s'est passé également? Alors que là, José Mario Lopez, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, gros problème à l'arrière gauche. Est-ce qu'il a tapé? Est-ce que c'est un problème de suspension? Oh là 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 là. Tellement dommage pour le pilote argentin qui effectuait une belle course, hein. Il était sur le podium virtuel. Bon, je pense qu'il aurait peut-être pas tenu face au retour des Techita, mais il faisait une très bonne course et là il est obligé d'abandonner. On verra sûrement ça au ralenti dans quelques instants. Et Verne se retrouve déjà troisième, il a passé Buemi. Oh, mais ce rythme fou qu'affichent les DS Techita, c'est quand même incroyable, hein. Incroyable, hein. Ça fait peur, hein. J'espère que les autres vont se réveiller parce que sinon on risque pas trop d'y avoir de suspense pour les prochaines courses, hein. Une fois que les deux pilotes se seront mis à bien comprendre. Alors que là, suite à l'accident de José Mario Lopez, nous sommes en full course yellow. Alors le full course yellow, c'est un peu comme la voiture de sécurité virtuelle en Formule 1. Sauf que là, c'est un rythme fixe, voilà. Un rythme fixe pour tous les véhicules. Donc, il n'y a pas tellement moyen de gruger. 50 km/h, on le voit là en haut. Alors qu'on voit les écarts pour l'instant. Les écarts qui s'allongent évidemment, vu qu'il y a le full course yellow. Donc, qui ne veulent pas tellement dire quelque chose tout de suite. Ah là là, José Mario Lopez toujours pas sorti de son véhicule. Donc, il va falloir un certain temps avant de le... d'évacuer la monoplace du pilote argentin. Ah, dommage pour Geox Dragon qui faisait quand même une très bonne première course, hein. Qui est son coéquipier cette saison, hein. C'est Maximilian Gunther, hein, le rookie. Gunther qui est un bon pilote, hein, théoriquement. Deuxième de F3 européenne en 2016, troisième de F3 européenne en 2017. Il a fait une saison de Formule 2, malheureusement, on lui a pas donné plus de chance que ça. Pour 2019. Et du coup, il s'est rabattu sur la Formule E. Donc, également, il pourrait faire quelque chose. Il est 17e actuellement. Donc, ouais, il est très loin. Il y a une différence d'expérience en même temps entre lui et Lopez. Et là, on sort la safety car carrément parce qu'on. Ouais. Ça va être trop long pour sortir la monoplace de Lopez. Donc, la safety car devient nécessaire. Bah là, ça redonne une chance à tout le monde. Là, ça redonne une chance à tout le monde. Ça va resserrer le paquet. Bon, les Techita, là, attention, là, qui vont vraiment pouvoir lutter pour la victoire parce qu'elles vont se retrouver pas loin derrière D'Acosta, D'Ambrosio. Même si D'Acosta, il a la chance, enfin la chance. Malheureusement, il a l'attaque mode. Ah oui, il y a ça aussi, l'attaque mode. Est-ce qu'il se gèle quand en période de safety car? Je ne pense pas. Du coup, ça serait vraiment. Oh là là, oui. J'ai l'impression que c'est dans le virage à gauche qu'on a vu là où aïe 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 ouais, il a dû prendre trop intérieur, il a pris le mur à l'intérieur. J'ai l'impression que c'est ça. On a vu avec la caméra qu'il y a la roue intérieure gauche, mais pas la roue arrière, donc c'est pas s'il a touché. Soit il a touché, soit c'est un problème de suspension, mais je crois qu'il a touché à l'intérieur. Et tout le team Penske, parce que c'est Geox Dragon, Penske, Autosport. Penske a un team d'expérience hein, en IndyCar, évidemment. Mais également en Formule E, ils sont en Formule E, je crois, depuis le début, ou la saison 2. Eh oui, non, ça se frise pas. Oh là là. Ah ouais, le règlement est violent pour le mode attaque qui ne le, dont le temps ne se gèle pas lors des périodes de safety car. Donc là, ah oui, quand il y a safety car, c'est grosse perte pour les pilotes qui étaient rentrés dans la zone d'activation du mode attaque. Et c'est le cas de Buemi et de D'Acosta qui seront rentrés dans cette zone pour rien. Surtout pour D'Acosta en fait, parce que lui, c'est lui qui perd le plus. Après, il a toujours le fan boost qu'il n'a pas utilisé, il me semble. Donc c'est plutôt pas mal. Les deux pilotes aptes, hein, 8e et 9e, c'est pas mal également. Ils bénéficient du fan boost. Donc, je ne sais pas s'ils l'ont utilisé en revanche. Mais il lui reste une attaque mode à D'Acosta. Alors, ah oui, en période de safety car, sûrement qu'on peut passer. Ah oui, le safety car était compréhensible vu qu'on fait entrer le tracteur là pour sortir le véhicule de José Maria Lopez. Ça prend un peu de temps quand même. Hein. Il risque de rester pas beaucoup de tours quand la safety car va s'effacer. Je pense peut-être 2 tours. 2, 3 tours. Ça resserre tout le paquet, ça risque de faire des derniers tours un peu de folie. Surtout que là, les pilotes peuvent économiser de la batterie. Donc c'est pas mal pour Buemi notamment, hein, qui avait ce problème-là. Pour également toutes les monoplaces qui avaient un peu plus ce problème-là par rapport au Techita notamment. Et à d'autres. Pas que les Techita qui avaient ça. Les Mahindra semblent pas mal là-dessus également. Hein. D'Ambrosio, il lui restait pas mal de batterie. Il faut dire qu'il avait pas trop lutté. Il restait en embuscade en début de course et c'était pas mal. Et l'attaque mode, on peut rentrer dans l'attaque mode en période de safety car apparemment. Personne ne le fait pour l'instant parce qu'on ne sait pas combien de temps va durer la safety car. La safety car qui est très lente. Hein. On voit le rythme des monoplaces là. Bon, pas trop d'incidence. Une incidence sur le fait que l'économie va pouvoir être plus grande. Mais on sent que la BMW là qui mène le train là, qui est la safety car, ne va pas à fond. Enfin, je ne crois pas. Ah voilà, on voit qu'il y a un pilote qui est en fond de grille là, qui du coup l'utilise, qui rentre dans l'attaque mode. C'est Stoffel Vandoorne hein, qui est en queue de peloton, qui a perdu tout le bénéfice de sa bonne qualification. Il était quand même, je crois, en deuxième ou troisième ligne. Hein. Je vais vous redire ça. Il était en deuxième ligne, il était quatrième. Hein. Il s'était brillamment qualifié, le pilote belge. Il se retrouve 18e. Hein. Ça a été une course compliquée. Hein. Je pense pour d'ailleurs son coéquipier également. Il est chez HWA Race Lab. Également une sorte de nouveau venu. Ou un nouveau nom pour une écurie existante. Il est aux côtés de Gary Paffett. Ah oui, ben en effet, ouais. Gary Paffett qui est 21e, je crois, qui a abandonné. Parce qu'on ne le voit pas en queue de peloton. Donc course compliquée pour les HWA Race Lab. Peut-être des évolutions, j'espère, à venir du côté moteur, parce que ça semble être ça, le problème. La fiabilité qui est très importante en Formule 1. On l'a vu l'année dernière avec les IDAMS qui, de manière surprenante, avaient des problèmes de fiabilité. La régularité qui est un des éléments clés en Formule E. Alors, est-ce qu'ils ont enlevé la monoplace de José Mario Lopez? C'est la question. Alors que là, dans la radio de Dacosta, on lui a dit, je crois, d'aller dans l'attaque mode. Il en reste un pour anticiper la sortie de la safety car et pouvoir se défendre. Je pense que c'est une bonne stratégie. En plus, il a le fan boost. Ah, le safety car va s'effacer dans ce tour-ci. Et oui, Dacosta, il suit les consignes de son jeune ingénieur. Voilà, il rentre en troisième position. C'est Verne également dans l'attaque mode. Il y a d'autres pilotes qui le suivent. C'est Evans, Lotterer, Apt, Di Grassi. Ouais, évidemment, c'est une bonne stratégie de faire ça pour tous ceux à qui il reste une attaque mode. J'espère que tous les pilotes à qui il reste un attaque mode ont fait ça. Alors que là, ça a repris. Hein. La course a repris. Hein. Ils ont choisi de le faire dans le tour de reprise. Le problème, c'est que Verne, du coup, il a perdu un peu de temps sur D'Ambrosio et Dacosta dans l'histoire. Mais ça peut se reprendre. Ouais, ça se reprend. Hein. Verne, il est déjà revenu sur D'Ambrosio. Malgré l'accélération de la ligne droite départ arrivée. Dacosta, il est pas mal, hein, premier. Il reste 3 minutes plus un tour, donc il reste en gros 4 minutes, quoi. On va voir Daniel Abt, Di Grassi, qui était passé dans la zone. C'est bizarre, pourquoi il a pas l'attaque mode? Ah, là, on a la signification des chevrons. 1 minute égale 1 chevron. Donc voilà, là, il reste 3 minutes pour Dacosta pour utiliser l'attaque mode. 4 minutes pour Sims et Massa, par exemple. Alors que Lotterer, il colle à Evans. Hein. Ouais, il était cheetah bien plus rapide. Ouais, là, c'est serré pour la deuxième place. Hein. Verne et D'Ambrosio, là, c'est la victoire qui se joue parce que Verne doit rapidement doubler D'Ambrosio pour pouvoir attaquer Dacosta. Hein. Il reste plus beaucoup de temps. Et Dacosta qui prend le large, il a raison d'utiliser son énergie comme ça. Et oui, on voit qu'il utilise son attaque mode. On le voit, il y a le halo qui clignote. Ça veut dire qu'il y a une utilisation d'attaque mode. Mitch Evans aussi. Grosse bataille entre Lotterer Evans et Holly Roland, il me semble. Non, ou Buemi, plutôt. Est-ce que Buemi va être encore une fois le dindon de la farce? Faut faire attention à pas qu'il défende trop. Il s'est fait passer pour Evans, qui avait utilisé son attaque mode. Mais il reste en cinquième position pour l'instant. Attention, Lotterer est mieux sorti du virage. Il est sur l'extérieur, il utilise son attaque mode. Mais ça ne suffit pas. On voit hein, l'évolution des kilowatts, 225 kilowatts au maximum, du coup ça donne un petit boost de puissance par rapport aux 200 au maximum des autres. Alors que là, Verne et Dacosta, ils l'utilisent, hein, ils utilisent l'attaque mode. Ils peuvent l'utiliser apparemment ouais, autant de temps qu'ils le veulent sur les 4 minutes en fait. Hein, j'ai l'impression, parce qu'on a vu les 225 kilowatts utilisés par Verne et Dacosta, alors que c'était pas forcément un moment stratégique. Alors que là, il y a Lotterer dans les échappements de Buemi, il est vraiment dans vraiment l'aspiration. Et puis avec Roland, son coéquipier qui est 7ème, les Nissan Idams qui font un bon tir groupé quand même pour voir qu'elles ont un peu de mal avec l'économie d'énergie, la gestion d'énergie. Elles ont profité des abandons, des erreurs des uns et des autres. Alors on est dans la ligne droite. Oh oui, oh là là, bah là il y a une grosse différence de vitesse avec les 225 kW. Il va pouvoir passer là, il faut freinage. Oh non, Buemi qui résiste. Attention, Buemi a pas trop résisté, a pas tout perdre dans l'histoire. Et il est passé Lotterer en insistant là dans le deuxième virage. Ouh, c'était une bataille virile mais correcte. Hein. Alors que là, Verne, il a 2 secondes 4 de Dacosta qui a bien pris le large. Hein, c'est bien, il reste 55 secondes plus un tour. Donc là, je pense que c'est l'avant-dernier tour de course hein, auquel on assiste. Donc Dacosta semble bien parti là. Il a de quoi se défendre. Tout le monde a de quoi... pas économiser d'énergie et y aller à fond. Donc là, c'est vraiment... on y va à fond et puis... pour le résultat, mais attention, il y a des gros points à prendre. Hein. Je pense notamment à Buemi qui prend beaucoup de risques et qui s'est fait passer par Lotterer. Les Nissan Idams qui font 6 et 7, ça serait pas mal hein, comme résultat si elle reste à ses positions pour une première course. Verne qui revient à une seconde 8, il a repris 6 dixièmes, mais ça va pas être suffisant. Il ne reste que une trentaine de secondes aux deux pilotes de tête pour utiliser l'attaque mode. Dacosta utilise le fan boost évidemment pour durcir un peu le train et dans la ligne droite pour s'éloigner un peu de Verne et lui ruiner tout espoir. Là, il utilise, on voit le Verne son attaque mode. Ouais, l'eau qui clignote là en bleu là, quand il clignote, c'est qu'il y a utilisation. Oh, il y a des grosses batailles là avec les Apt qui ont doublé, je crois, tous les deux au lieu Roland. Ou c'est Piqué, non, Piqué qui a doublé les deux Apt. Ah non. Pas du tout, les commentateurs qui étaient un peu à la ramasse là. Et du coup, Sam Bird et Robin Frins là, qu'on n'a pas vu de la course, les deux Virgin, et pour cause, hein, je vous avais dit, manque d'essai, qui pourrait amasser peut-être un point ou deux intéressant. C'est le dernier tour. C'est le dernier tour, alors que là, retour de Verne sur Da Costa. Ouh là là, il est vraiment beaucoup revenu malgré le fan boost de Da Costa. Ouah, quelle pression sur le pilote portugais. Ouh là, ça risque de se jouer vraiment dans la dernière ligne droite. Hein. Ça risque d'être vraiment serré entre les deux pilotes. Et Chita vraiment beaucoup plus rapide que le reste de la troupe. Hein. Beaucoup mieux, beaucoup plus fiable. Et là, c'est la ligne droite de départ arrivée. Non, il va pas pouvoir le faire. Et victoire, première victoire. Victoire de Antonio Félix Da Costa devant Jean-Éric Vergne. Fou, c'était chaud. Mais non, c'est le dernier tour. Là, c'était l'avant-dernier tour. Là, c'est le dernier tour. Je crois que c'était la fin, mais disons que là... Ah, c'est le dernier virage. Ah oui, d'accord. L'arrivée n'est pas au même endroit que le départ. Et du coup, l'arrivée se situe ici. Ouh, mais c'était chaud entre les deux premiers. Et D'Ambrosio qui complète le podium, qui a fait une très bonne course pour Mahindra. Evans, Lotterer, Buemi, Roland, Abdi Grassi et Piquet en dixième position. Belle course hein, du pilote brésilien. Donc c'est les 10 pilotes qui vont avoir des points. Après, au niveau du meilleur tour en course, je ne sais pas si un des 10 premiers a fait le meilleur tour. Mais Da Costa, pole et victoire, c'est quand même beaucoup de points amassés pour l'écurie BMW Andretti. Son coéquipier, c'était qui? C'était Alexander Sims, je crois qu'il est également dans les... Non, il n'est pas dans les points, il a fait une deuxième partie de course assez étrange. Et le vainqueur, ce sera Antonio Félix Da Costa. Voilà. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié cette première course de la saison. Je vous donne rendez-vous pour la deuxième. Et voilà, et en attendant, comme d'habitude, vivons notre passion. À bientôt!